France Inter, le 18-20.
C'est pour ça que c'est important le salon de l'agriculture, pour que les citadins viennent voir les agriculteurs, pas seulement pour montrer des vaches en vrai à des enfants. C'est important que les citadins, les consommateurs de grandes surfaces aussi, ou les adeptes du circuit court, viennent directement entendre parler des modes de production, comment on travaille réellement quand on cultive la terre, quand on élève des bêtes. Parce que parfois, pas toujours, aux yeux du citadin bobo qui ne connaît que l'agriculture, que les AMAP qu'ils fournissent chaque semaine, l'agriculteur c'est le pollueur, c'est l'empoisonneur. C'est celui qui ne prend pas soin des bêtes destinées aux abattoirs, puisque sauf depuis que l'on filme, les conditions d'abattage épouvantables. D'ailleurs, la viande, ça n'a plus de sens. L'agriculteur, c'est aussi celui qui n'arrive pas à se passer de glyphosate, mais c'est parce qu'il ne veut pas faire l'effort. Et pourquoi est-ce qu'on n'obligerait pas tout le monde, après tout, de faire du bio? En bon français, même le ministre appelle ça l'agri-bashing. Mais au fond, quand les deux mondes arrêtent de se caricaturer l'un l'autre, le débat, c'est celui d'une agriculture conventionnelle contre un autre modèle. Ce débat-là, il vaut le coup. Ces questions-là, tout le monde se les pose aujourd'hui. Et même les citadins, d'ailleurs. Même celui qui a un panier sur son vélo, figurez-vous, celui-là n'est ni sourd ni aveugle à ce qui l'entoure. Il sait les conditions de vie particulièrement difficiles. Il sait les suicides nombreux. Il sait les salaires très bas. Il sait les prix très bas. C'est pour ça, donc, que c'est important, le salon de l'agriculture, savoir se parler, se comprendre, sans se caricaturer. Et donc, on est parti.
Fabienne Saint-Pès. Le téléphone sonne.
Nicolas, c'est vous le premier. Soyez le bienvenu et bonsoir.
Oui. Bonsoir. Alors, juste une question plutôt sous forme de remarque. Effectivement, dans l'énoncé de votre émission, il y a comme une forme d'inversion. Alors, vous le dites de façon un peu ironique. Je fais peut-être partie de ces citadins bobos, mais je suis aussi très concerné par toute la poésie de la ruralité, parce que c'est une réalité, c'est une évidence. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment quand même, effectivement, que ce sont les agriculteurs qui sont rétifs, en fait, à l'idée de produire différemment, et qui sont quand même, comme vous le dites, d'ailleurs, attachés au glyphosate, mais peut-être au-delà de ça, finalement, parce que derrière le glyphosate, c'est surtout ça, attaché au rendement, à la productivité, sans doute aussi pour assumer des revenus, mais là encore, il ne faut pas caricaturer, il y a les petits agriculteurs, et puis il y a les amis de M. Macron qui produisent, qui effectivement font de l'argent, et ce sont eux qui font du lobbying à Bruxelles, pour qu'on maintienne le glyphosate, pour qu'on ne puisse pas voir la vie autrement, pour qu'on ne consomme pas différemment, et que le citoyen se transforme petit à petit en consommateur. Et je pense que l'agriculture et le salon de l'agriculture devient cette espèce de théâtre de l'hyper-libéralisme.
Et en même temps, pardon hein, Nicolas, mais je vous entends parler de poésie de l'agriculture, c'est formidable, mais...
De la ruralité.
Ouais, de la ruralité, ouais. Y a des réalités économiques aussi derrière cette poésie de la ruralité, comme vous dites. Vous parlez de consommateurs au salon de l'agriculture, mais... L'agriculture nous nourrit. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est vraiment là, pour le coup, dans deux mondes qui, tels que vous nous le décrivez, qui se connaissent très très peu, en fait? On va poser la question à nos invités, mais ça m'intrigue ce que vous nous dites, en fait.
Je pense qu'il y a deux mondes au sein même de l'agriculture. Je pense qu'il y a des expériences. Il y en a eu à Notre-Dame-des-Landes, puisque je ne suis pas loin. Mm-hmm. Il y a eu des modes de production qui ont été pendant très longtemps méprisés, que l'on a caricaturés, qu'on a jugé insuffisamment productives, riches de projets ou de rentabilité. Pardon. Et je pense que c'est surtout au sein de la production agricole qu'il y a deux mondes qui s'affrontent. Nous sommes consommateurs citoyens au bout de cette chaîne que l'on ne peut que finalement regarder ou contempler avec une forme de résignation, parce que on ne peut plus être acteur.
Merci.
Et on est de même pour la transition énergétique.
Merci.
Il y a des acteurs majeurs qui imposent leur vision à des acteurs locaux.
Merci beaucoup Nicolas, parce que c'est une fort belle entrée en matière que la vôtre. Ça nous permet de balayer beaucoup de choses. Merci pour répondre à vos interrogations, en fait, plus qu'à vos questions d'ailleurs et à vos remarques. Laurent Pinatel est là. Bonsoir Monsieur Pinatel.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de la Confédération Paysanne. Samuel Vandal est là aussi, secrétaire général des jeunes agriculteurs. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis Manuel Ruffez qui couvre ce salon pour France Inter. Bonsoir Manuel.
Bonsoir.
spécialiste de l'agriculture pour France Inter. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce que dit Nicolas. Je voudrais commencer, Laurent Pinatel, par son entrée, plutôt sur ce qu'il disait sur la fin d'ailleurs. Est-ce qu'il y a vraiment deux mondes, y compris chez les agriculteurs, qui sont quasiment deux mondes irréconciliables entre, en gros, l'agriculture industrielle et puis l'autre agriculture, en fait? Est-ce qu'on est dans ces deux mondes qui ne se parlent pas?
Je pense que c'est pas aussi binaire. En fait, il y a pas de monde, il y a plein de monde. Il y a plein de monde agricole. Il y a des gens qui sont dans des systèmes de production classiques, hein, qui travaillent en filière, qui livrent en filière. Il y a des gens qui ont fait le choix de circuits courts, il y a des gens qui sont dans des circuits conventionnels, d'autres qui ont fait le choix de l'agriculture biologique. Tous ces mondes cohabitent. Il y a des gens qui ont fait des choix, qui se sont rendu compte que la transition agricole était inéluctable si on voulait rester paysan ou paysanne, et qu'il faudrait prendre ce chemin-là. Il y a des gens qui ont fait le chemin contraire. Ils sont une extrême minorité. C'est les gens qui ont choisi de faire appel à des capitaux extérieurs pour développer leurs exploitations. Je parlais aujourd'hui sur le salon avec François Purseigle, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'agriculture de firme. Et effectivement, il y a encore quelques fermes-usines en France. Ils sont une minorité. Mmh. C'est des gens qui ont fait le choix d'être les dominants de l'agriculture. Et eux, c'est ce
monde-là. Ils sont une minorité, mais est-ce que ça veut dire que c'est un modèle qui, de toute façon, n'existe plus aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression, au contraire, qu'on voit des fermes qui s'agrandissent, on voit des élevages qui s'agrandissent, ou est-ce qu'au contraire, ça y est, là-dessus on est en train de revenir en arrière?
Non, les fermes-usines, c'est vraiment la capitalisation par des capitaux extérieurs, c'est le lien homme animal qui est complètement nié, le lien à la nature qui est nié. Ces fermes-usines, elles sont une minorité. Et je pense qu'il faut les combattre.
Est-ce que c'est fini?
C'est pas fini. On a posé le débat, nous, la Confédération paysanne, avec l'usine des mille vaches. Mais si, il y a quand même des gens qui sont tentés de venir faire du pognon dans l'agriculture sur notre dos. Mais ça, j'allais dire, c'est une extrême minorité. Dans les autres paysans, paysannes, il y a plein de gens qui savent pas où ils en sont, en fait. Il y a des gens qui sont paumés et qui aimeraient savoir par où il faut aller. Les politiques publiques, elles changent tous les 3 ans, 4 ans. On navigue à vue et c'est complètement inconfortable et complètement inconcevable. Quelqu'un qui fait un bâtiment pour des vaches laitières, par exemple, qui va s'endetter sur 20 ans, la politique va changer dans 3 ans. Enfin, on fait quoi? Et c'est ça, je pense que c'est de ça qu'il faut parler. Comment on arrive de ne plus naviguer à vue?
Quand vous entendez, Samuel Vandal, que les agriculteurs sont rétifs à faire certains changements, et on est en train de parler typiquement de changer de modèle, arrêter les pesticides, c'est de ça dont parlait notre auditeur, j'imagine. Quand ils rechignent à produire différemment, est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous trouvez que c'est injuste, en fait, cette remarque de Nicolas?
Moi, je me reconnais pas du tout. Depuis mon installation, j'ai changé énormément d'exploitation. C'était une exploitation en agriculture conventionnelle. Je suis passé en agriculture de conservation, en semi-direct, gestion des sols, allongement de la rotation. Et aujourd'hui, je ne cherche pas le rendement, comme il pouvait le dire. Je cherche la qualité. Et c'est pour ça que je suis que sur des contrats de qualité. Et il y a un certain nombre d'exploitations qui sont comme ça. Et les jeunes, aujourd'hui, qui s'installent, ont vraiment des projets. C'est des projets qui mènent, c'est leur bébé, avec une énorme diversification sur l'exploitation. C'est fini l'exploitation où on fait que des céréales, on fait que de l'élevage. L'installation, c'est le bébé, c'est notre projet, je l'ai déjà dit, mais c'est surtout notre passion. Et je pense que...
Mais du coup, qu'est-ce qu'on dit à Nicolas? Un monsieur comme ça qui est tellement convaincu, il le dit avec beaucoup de passion et on sent que ça l'intéresse. Il habite à côté de Notre-Dame-des-Landes, des expériences comme ça, des expériences différentes, il en voit. Qu'est-ce qu'on lui dit pour qu'il ait une autre image de ce que vous êtes, vous?
Moi, quand il nous dit, il conclut en disant les concitoyens sont pas acteurs. C'est malheureux de dire.
Il parle de résignation, même.
Ouais, mais au contraire, c'est tout l'inverse aujourd'hui. Les consommateurs ont tout dans les mains, c'est-à-dire faire le choix de leur alimentation, faire le choix de ce qu'ils veulent manger. Et à un moment donné, il faut aussi une cohérence tout au long de la chaîne. Quand quelqu'un aujourd'hui nous dit qu'il, par exemple, ne veut plus de glyphosate, mais qu'il achète des barres de cornflakes qui nous sont importées des États-Unis, du Canada, OGM, il faut arrêter tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être cohérent. L'agriculture s'est toujours adaptée aux demandes des concitoyens, et on le fera et on relèvera le défi. Peut-être pas assez vite, Laurent. Peut-être pas assez vite, mais en tout cas, on le fait et on s'efforce à le faire. Mais en attendant, il faut que nos concitoyens, aujourd'hui, soient réellement acteurs. Il y a une pétition aujourd'hui, entre autres, sur la traçabilité des produits et l'origine des produits. On encourage les concitoyens à la signer pour avoir une vraie traçabilité sur nos produits.
Manuel. Moi, ce que ça m'inspire, ce que vient de nous dire notre auditeur, c'est d'abord que les Français ont une espèce de double personnalité. C'est que d'abord, ils disent que il y a l'agribashing, effectivement. On accuse l'agriculteur d'être un pollueur. On l'accuse de maltraiter ses animaux, etc. Et en même temps, on s'aperçoit que dans les récents sondages pour France Info, 85% des Français aiment les agriculteurs. Alors là, on sait plus, on est un peu perdu. Et puis, il me semble qu'il reste quand même une chose qui est essentielle, et c'est ce que disait un peu notre auditeur aussi, malgré tout, l'argent, le revenu, c'est le nerf de la guerre. Alors, on a l'impression qu'il y a des changements là en ce moment, qu'il y a peut-être, on voit les céréaliers qui s'engagent vers plus de valeur ajoutée, on voit les éleveurs de viande qui veulent faire du flexitarisme. Enfin, on ne sait plus où on est là. Mais tout ça, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a simplement monter en qualité et vendre mieux. Les céréaliers, ils savent très bien que bientôt, les aides de la PAC seront conditionnées à des aides liées à l'environnement. Donc, ils savent qu'ils vont peut-être mieux vendre, qu'ils vont peut-être mieux vendre à l'export. Les vendeurs de viande, pareil, ils veulent monter en qualité parce qu'ils seront plus compétitifs sur la qualité. Donc, l'argent, c'est quand même, ça reste le nerf de la guerre. Et c'est normal, on est tous comme ça, quand même.
Cliff, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue, Cliff, on vous écoute.
Bonsoir. Alors moi, je voudrais juste plutôt laisser un témoignage que poser une question. Donc je suis pas agriculteur, mais néanmoins j'habite en campagne et je m'intéresse beaucoup à l'agriculture depuis une dizaine d'années. Et donc on jette pas mal la pierre aux agriculteurs. Je trouve ça assez injuste et je pense que, alors je suis assez d'accord avec l'intervenant précédent qui disait qu'il y a beaucoup de lobbies, on essaie de beaucoup d'orienter les choses, mais je pense que ceux qui ont la clé, c'est avant tout les consommateurs. Parce que j'entends peu parler de changer nos modes de consommation et manger moins de viande, de fromage et surtout y mettre le prix. On peut pas trouver que du roquefort à 20 euros le kilo, c'est cher, et après ne pas vouloir de glyphosate, ne pas vouloir d'élevage intensif, etc. On jette la pierre aux agriculteurs, mais les agriculteurs, que ça soit en conventionnel, en bio, en extensif, tout ça, ils ont un travail dur et peu rémunérateur. Et c'est bien joli de dire oui, il faut interdire le glyphosate, hein, il faut donner des solutions derrière en fait. Parce que c'est 10 fois moins cher de désherber un champ avec du glyphosate. Attention, mais je suis le premier convaincu que c'est une saloperie, mais c'est 10 fois moins cher de désherber un champ avec du glyphosate qu'avec une action mécanique.
Merci beaucoup.
Voilà, je pense que les premiers aussi qui peuvent avoir la clé de ça, ce sont les consommateurs.
Merci beaucoup, Cliff, pour ces remarques. Laurent Pinatel, c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule aussi. Qui commence, qui enclenche en fait ? Est-ce que c'est vous, les agriculteurs, qui êtes tous capables de dire, regardez, voilà ce que nous faisons. Donc, ah bah oui, du coup, grâce à vous, on peut manger mieux. Ou est-ce que c'est nous, c'est un peu les deux quand même, qui vous disons, par exemple, sur la viande, qui vous disons, nous, c'est fini maintenant, on mange plus des animaux qui ont été tués, par exemple, dans ces conditions-là, et qui sont élevés dans ces conditions-là, donc débrouillez-vous pour le faire autrement si vous voulez votre viande.
Oui, ça va être ça. Il y a plusieurs choses. Moi, je pense déjà qu'il faut replacer le débat par rapport à la consommation, toujours reporter sur le consommateur l'effort final. Effectivement, le consommateur, il a des choix à faire. Effectivement. Est-ce que tous les consommateurs, aujourd'hui, ont les moyens de faire des choix ?
Alors, la réponse est non.
Non, il y a des gens qui, aujourd'hui, ne meurent pas de faim parce qu'il y a la banque alimentaire en France.
Hein. Mais pardon, inversement, est-ce que tous les agriculteurs ont les moyens de faire le choix d'une autre agriculture ?
Oui, bien sûr. Mais ça, donc, c'est la première chose. On ne peut pas uniquement faire reposer sur le consommateur et le fait qu'il paye plus, le fait de changer l'agriculture. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule, le paysan ou le consommateur, il y a quand même quelqu'un d'autre au milieu, il y a l'État. Il y a l'État, il y a le gouvernement, il y a les politiques publiques. Les politiques publiques qui ont marqué très fortement l'agriculture. L'agriculture, elle est là où les politiques publiques les ont menées. Et aujourd'hui, effectivement, derrière la question du glyphosate, c'est une question extrêmement réductrice par rapport à l'activité agricole. C'est, de quoi le glyphosate est-il le nom ? Le glyphosate, c'est le symptôme d'une agriculture qui s'est fait la compétition autour de la planète. Et pour être compétitif, toutes les armes ont été bonnes. L'exploitation des travailleurs dans les pays du Sud, enfin du Sud de l'Europe, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Et aujourd'hui, il reste comme arme, notamment aux arboriculteurs français, l'arme chimique, les pesticides pour pouvoir se faire la compétition. On ne pourra pas sortir de la dépendance aux pesticides si on ne sort pas de cette logique de compétition intra-européenne et mondiale sur les produits agricoles. Donc si on veut que les paysans ils changent leurs pratiques, et il faudra qu'ils changent leurs pratiques plus ou moins vite, chacun ira à son rythme, mais il faut des politiques publiques incitatives. Il va falloir mettre de l'argent, le faire bouger. Aujourd'hui, c'est des primes de situation. On sait qu'il y a des gens qui touchent beaucoup de primes PAC. Il faut faire bouger cet argent, comme une carotte en fait, pour faire avancer les gens dans le sens où les consommateurs attendent. C'est-à-dire avoir une agriculture qui produit pour ce que les consommateurs veulent et non pas une agriculture qui produit pour des marchés de l'agroalimentaire.
Mais moi je vous entends là, Samuel Vandel, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vous entends là, je me dis que oui, à notre échelle et à l'échelle d'un circuit court, ça marche. Mais dès qu'on change d'échelle... c'est foutu et c'est beaucoup plus compliqué en fait. Comment on fait pour être compétitif par rapport à d'autres, par rapport à nos voisins et même au-delà?
Mais non, je pense que à toutes les échelles, le consommateur il a vraiment l'arme dans les mains. C'est-à-dire que quand il va faire, qu'il aille dans les circuits courts ou qu'il aille dans la grande distribution, à partir du moment où il souhaite déjà vérifier d'où vient son produit et déjà favoriser l'agriculture française et après les signes de qualité, c'est un acte. Voilà. Et qu'on avancera, je suis désolé de le dire, mais on n'avancera pas tant qu'on aura cette nourriture à bas coût qui nous est importée de partout dans le monde, et on ne fera pas avancer l'agriculture. Parce que déjà, notre nourriture, même si elle est en conventionnel et pas en bio, elle est déjà supérieure à la qualité des produits qui sont importés de bien d'autres pays. On a vu, on pourrait prendre l'exemple de la cerise, par exemple. La cerise, où il y a un produit qui a été interdit sur le marché il y a pas très longtemps. Aujourd'hui, ces mêmes cerises, il y a eu un accord de libre-échange qui a été signé avec la Turquie. Donc ces cerises qui sont traitées reviennent en France et sans aucune quoi, voilà, et on laisse les agriculteurs au dépourvu sur le banc et on favorise les agriculteurs d'autres pays.
Et est-ce que je le sais, moi, au final d'ailleurs, ce que je mange comme cerise ou pas?
Et ben c'est pour ça qu'aujourd'hui on se bat déjà pour avoir un étiquetage clair et net. Il faut déjà étiqueter les produits, que les gens connaissent réellement les méthodes de production, c'est-à-dire qu'il faut qu'on communique plus, et c'est ce qu'on a engagé, et chez Jeunes Agriculteurs, on souhaite le faire, ouvrir nos fermes, expliquer à nos voisins, aux concitoyens, c'est vraiment un objectif. On a trop délaissé la communication, hein. On a laissé ça allait trop bien, je pense, à un moment donné. Les agriculteurs.
D'accord.
Je nous mets en faute, hein. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, ça allait trop bien. L'agriculteur
était. Vous mangerez ce qu'on vous donnera?
Non, je pense que.
Un peu quand même, ou pas?
L'agriculteur, l'agriculteur, il était présent dans les conseils municipaux, il était présent partout. Aujourd'hui, on est de moins en moins d'agriculteurs, moins de moins représentés, représentatifs. Et de ce fait-là, on a continué de faire comme on faisait. Et donc, on communique pas sur notre métier, sur nos produits. Et là, aujourd'hui, on se réveille. Parce qu'il y a tout un tas de scandales. Parce qu'il y a tout un tas d'associations aussi qui font un ramdam. Et donc on se réveille peut-être un peu tard. Mais en tout cas, moi je pense pas qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, on va relever les manches, il faut communiquer. Moi j'incite tout le monde à aller voir ses voisins, communiquer. Moi je fais un barbecue à la fin de la moisson avec tous mes voisins où je leur explique très clairement ce que je fais. Quand je sors le pulvérisateur sur mon exploitation, j'explique aussi ce que je fais. Voilà. Parce que quand
Parce que vous pulvérisez toujours, vous êtes pas bio vous.
Non, je ne suis pas bio. Mais par contre, à côté de ça, quand dans mes févroles, je mets de la bouillie d'ail et que ça sent pas bon, et c'est de la bouillie d'ail. C'est un produit qui est bio. Voilà. Et aujourd'hui, moi, sur mon exploitation, 60%, 70% des produits que je mets, ce sont des produits qui sont aussi homologués en agriculture biologique.
Et est-ce que vos voisins vous disent parfois, je dis ça sans plaisanter, ça sent pas bon ton truc, est-ce que tu pourrais pas mettre autre chose? Non, mais parce que voilà le paradoxe aussi. Hein,
Mais tout à fait. Je vais prendre l'exemple des engrais. Un engrais chimique, ça sent rien. Ça embête personne. Pour ma part, je mets des engrais issus d'élevage. À un moment donné, ça sent pas bon. Et donc, c'est là la contradiction. Et c'est très compliqué à expliquer. C'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, quand on va mettre de la matière organique dans nos sols, ça sent un peu moins bon. Oui. Et le consommateur, le concitoyen, il est pas forcément prêt à l'accepter. Donc, on lui dit, tu préfères qu'on mette de l'engrais chimique? Non. Mais alors, on fait comment?
Bonsoir, Jacques. Jacques, vous êtes là ou pas?
Oui, je suis là.
On vous écoute, allez-y.
Alors voilà, moi c'était une petite constatation. On est agriculteur bio, on est producteur de moutons, donc on est dans les standards de la demande du consommateur, et puis de l'attente de l'État. Et pourtant on se rend compte que c'est très difficile d'être agriculteur en bio. Plusieurs choses, il y a le prix du produit qui n'est pas assez rémunérateur. Malgré les EGA, nous, cette année, on va vendre notre kilo de mouton 5 centimes de moins que l'année dernière. Voilà. Et la deuxième chose, c'est l'État qui s'est désengagé. Voilà. Aujourd'hui, il a un discours, il faut du bio, il faut du bio, il faut du bio. Voilà, très bien. Nous, on s'est engagé sur des contrats il y a 5 ans. Si nous, on ne les respecte pas, si on reste pas en bio, on repaye tout ce qu'on nous a donné en aide. Par contre, de l'autre côté, l'État a diminué cette prime. On maintient l'agriculture biologique. Nous, c'était sur le plan d'amortissement, c'était le remboursement d'un achat de tracteur, par exemple. Et Laurent Pinatel parlait de la
l'invisibilité, c'est de ma faute, c'est contagieux.
Voilà, c'est exactement ça que je voulais dire. Et c'est ingérable sur une ferme. Aujourd'hui, on est en bio, on essaye de produire bien, on a la plus haute qualification environnementale, et pourtant, les primes bio, il y en a beaucoup qui ne sont pas versées de 2016, de 2017 et 2018, ça va être après les vacances. Et aujourd'hui, nous, les courts termes qu'on fait, les intérêts, c'est pour notre pomme, quoi.
Merci. Voilà. Merci beaucoup, Jacques, pour ce témoignage, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que dit Jacques. Laurent Pinatel, d'abord, tiens, on va commencer par la fin. Effectivement, des témoignages de gens qui disent « mais les primes sont en retard, les primes ne viennent pas, ou ont été diminuées ?» on peut pas demander, le beurre et l'argent du beurre aux agriculteurs, y compris bio.
Non, là on s'est carrément moqué des gens. Il y a des gens qui ont signé, ça a été dit par Jacques, les gens ont signé un contrat, moi je m'engage à produire de telle façon, et l'État a dit ok, c'est génial, on va vous rémunérer pour le faire. Et l'État les a pas rémunérés. Nous, l'autre jour, on a porté au ministère de l'Agriculture un dossier, alors c'est un cas particulier, mais assez symptomatique, d'un paysan normand à qui l'État devait 100 000 euros, des aides de 2015, 2016, 2017, 2018. Et là, l'État nous dit, nous, on peut rien faire parce que c'est le second pilier de la PAC, le logiciel n'est pas encore calé, mais on va trouver une solution. Mais 100 000 euros, mais on se moque des gens. Mmh. Et il se trouve quand même qu'aujourd'hui, on nous dit, comme l'a dit Emmanuel Macron l'autre jour au discours inaugural, oui, mais c'est qu'on a fait trop de mesures. Mais en fait, on s'en fout, nous, qu'on a fait trop de mesures ou pas. Il y a des gens qui ont besoin de leur argent.
Mais cela dit, est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire, est-ce que, emporté par je ne sais quoi, on a promis un tas de trucs qu'on était absolument incapable de tenir?
Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Mais c'est pas une raison pour pas payer.
Mais par exemple,
il faut en tirer leçon pour la prochaine PAC, de dire, il faut un truc plus simple. Mmh. C'est évident qu'il y avait trop de mesures. Mais en attendant, comment ça se fait que l'État français, la 5e ou 6e puissance économique mondiale, ne soit pas fichu de faire un logiciel, au bout de 5 ans, pour payer correctement les aides? Donc ça, c'est vraiment, et puis un déni. Enfin, c'est violent, quoi. Les gens, ils disent, mince, les autres, ils ont eu leurs aides, et moi, mes aides à l'agriculture biologique ou au changement de pratique, ce que tout le monde demande dans la société, les gens nous montent du doigt en disant, mais changez donc. Ok, moi, j'ai voulu changer, on m'a pas payé pour. Donc ça, c'est quand même embêtant, quoi.
Manuel.
Oui, puis je crois que le gouvernement a été pris de court par le nombre de conversions qu'il y a eu. Ils se sont retrouvés avec beaucoup trop d'agriculteurs qui sont convertis au bio. Et du coup, il a fallu diviser par autant.
6200 en 2018, il paraît que c'est un record.
Il a fallu diviser par autant les aides. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Alors, le dernier rebondissement en date, c'est que la Fédération nationale de l'agriculture biologique, 3 agriculteurs qui attaquent directement l'État pour ses retards de paiement. Il y a des retards de paiement, effectivement, depuis des aides qui datent de 2016. Je crois que c'est 25% des aides de 2016 qui ne sont pas instruites. 50% des aides de 2018, n'en parlons pas. Et ça, pour se convertir au bio, les agriculteurs en ont besoin, parce que quand on se convertit au bio, on a des pertes de revenus, on a des pertes de rendement, et ils peuvent pas vivre sans ces aides.
Samuel Vandel, est-ce que ça veut dire, est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles, parce que quand même 2800, ça fait beaucoup, c'est un record pour 2018, est-ce que ça fait partie des freins qui font qu'il y en a qui réfléchissent et qui veulent pas y aller pour l'instant au bio ou pas? Est-ce que c'est ça le frein principal?
Écoutez, aujourd'hui, un jeune qui s'installe ou quelqu'un qui entame sa conversion, il est avant tout chef d'entreprise. Donc il a besoin d'avoir une vision à long terme, une vision aussi économique, il vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Donc forcément, aujourd'hui, quand vous attendez des aides, on vous promet des aides qui n'arrivent pas, forcément, à un moment donné, ça fait réfléchir. Et forcément, c'est un des freins. Oui, c'est un des freins.
Est-ce que c'est plus facile, pardon de vous interrompre, de s'installer jeune agriculteur bio plutôt que de se convertir bio?
Non, c'est même plus compliqué. D'accord. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, un jeune qui s'installe, il a pas de trésorerie. Quelqu'un qui a roulé un peu sa bosse, qui est installé depuis 10, 20 ans, il a pu accumuler un peu, peut-être, de trésorerie, et donc, il peut assumer le coup. Et les banques lui font un peu plus confiance. Un jeune qui s'installe, il a déjà l'outil à reprendre. Il a la conversion. Et la banque, et là, on arrive à ça, un vrai problème. Les banques, aujourd'hui, sont frileuses de faire des courts termes sur les aides PAC, parce qu'un court terme, c'est un an. Sauf que là, Laurent Pinatel, Emmanuel l'ont bien dit, on est sur des aides qui datent de 3 ans. Donc ça, c'est un vrai frein. Et puis, le deuxième chose, juste sur la cohérence politique. Au dernier gouvernement, on était parti sur l'agroécologie, merci. On était parti sur l'agroécologie, on fait des GIDE, on fait l'agriculture de conservation.
L'agriculture de conservation,
c'est une agriculture où aujourd'hui on ne travaille plus les sols, c'est-à-dire qu'on est, on vit avec le vivant. Je sème des cultures intermédiaires sans cesse, qui permet de favoriser la vie de mon sol avec les vers de terre, les bactéries et tout ce qui s'ensuit. Et donc, on est parti sur un système tel que celui-ci, on y croit, mais ce système, il réduit énormément la consommation de produits phytosanitaires. Par contre, il y en a un qui réduit pas, c'est le glyphosate. Voilà. Et aujourd'hui, sur mon exploitation, j'utilise 1,3 litre de glyphosate hectare. Et donc voilà,
Et c'est le modèle qui a été prôné par le précédent gouvernement.
C'est ça. Et donc on manque de cohérence.
Un peu quand même, évidemment.
En même temps, c'est quand même ce qui a été poussé, ce qui a été dit dans les salons d'agriculture. On a vu le stand du ministère de l'Agriculture plusieurs années de suite prôner l'agriculture de conservation. Donc voilà. Et peu importe qu'on soit en conventionnel, en bio, en agriculture de conservation, aujourd'hui on a besoin d'une cohérence politique, on a besoin d'un vrai projet pour l'agriculture, on a besoin d'un vrai projet alimentaire, c'est le pacte alimentaire qu'on doit signer avec les concitoyens, l'État et les collectivités.
Laurent Pinatel, je vous laisse répondre parce que je voulais vous faire la moue pendant que...
Non mais je faisais la moue parce que effectivement, c'est pas uniquement l'agriculture de conservation qui a été mise en avance. Moi je trouve très honnête de la part de Samuel, je sais pas s'il allait le dire, qu'effectivement il y a du glyphosate qui est utilisé en agriculture de conservation, et c'est justement sur ces agricultures-là qu'aujourd'hui on est quand même dans une impasse.
Et alors attendez, 1,3 litre par hectare,
c'est très peu.
C'est dans quelle moyenne?
D'accord, okay. En fait, vous voyez, vous prenez une bouteille d'eau que vous mettez au milieu d'un terrain de football.
D'accord.
Voilà. Et c'est pour ça que c'est aussi, quand je vois certains utilisateurs, et même, je dirais pas où, mais de glyphosate qui sont à 20 litres pour un jardin de 3000 mètres carrés, je veux pas rejeter la faute, on n'est pas là pour ça. Mais aujourd'hui, justement, par rapport à ce que dit Laurent, je le dis parce qu'il faut l'expliquer.
Bien sûr.
Et il faut expliquer ce que l'on fait, quoi. Et on le fait pour nous tous, pour nos aliments, mais pour nos terres aussi. Enfin, moi, très clairement, j'ai pas envie d'avoir une terre demain qui est pourrie, que je laisse à mes enfants. Donc, ce que je fais, voilà, j'essaye de le faire correctement. Je le fais différemment de l'exploitation de Laurent Pinatel, voilà. On est complémentaires.
Mais alors, un moment, je voudrais comprendre, parce que j'ai du mal à suivre, on me dit que les produits phytosanitaires, au fond, ont augmenté, la pratique des produits phytosanitaires ont finalement augmenté parce que ça fonctionne par dose, hein, c'est ça que j'ai lu.
Oui.
J'aimerais bien comprendre, en fait, est-ce que oui ou non, depuis qu'on essaye de supprimer le glyphosate d'une manière ou d'une autre, est-ce que oui ou non, on consomme finalement plus d'autres pesticides et de produits phytosanitaires.
Indifféremment de la question du glyphosate, hein, c'est pas lié avec la question du glyphosate. Je pense que la question du glyphosate, elle est essentielle parce qu'elle a posé sur la place publique la problématique pesticide. Et ça, c'est important. Nous, réellement, à la Confédération Paysanne, on le dit depuis des années, il nous semble quand même qu'on est, avec les utilisations de pesticides, devant quelque chose de dramatique qui s'annonce, de l'ampleur du drame de l'amiante ou du sang contaminé. Pour nous, il faut sortir des pesticides. Par contre, il faut pas en sortir en claquant les doigts ou en faisant de l'incantation, en disant il faut sortir. Les paysans, ils n'utilisent pas du glyphosate ou des autres pesticides, simplement parce que ça leur fait plaisir. C'est parce que c'est des outils qui sont adaptés aujourd'hui à des pratiques de compétition internationale, de compétition
européenne. Attention juste à pas vendre de la peur non plus, quoi. On parle d'agribashing et de gens qui nous tirent dessus. Attention à pas se tirer entre nous dessus. C'est-à-dire qu'il faut accompagner, il faut expliquer, mais comparer aussi à l'amiante, quoi, à un moment donné.
Non, moi j'assume complètement. Je pense qu'il faut réellement prendre conscience qu'aujourd'hui, les pesticides, ils sont en train de tuer les paysans et les paysannes. La génération qui arrive en retraite, là, pour le moment, elle voit son espérance de vie en bonne santé diminuer de façon importante. Il y a un lien avec les pesticides.
Mais alors, du coup, oui ou non, les fameux 3 ans, par exemple, impossible, ou on aurait pu, si on avait fait des efforts, qu'est-ce que vous dites là-dessus, vous, Laurent?
Déjà, pareil, lisibilité. On obtient à Bruxelles, dans 5 ans, on rediscute du glyphosate. Macron dit non, nous, ça sera 3 ans, et puis finalement, non, ça sera plus 3 ans, et puis peut-être l'autre jour, on a compris que ce serait peut-être encore 3 ans. On a besoin de lisibilité. Si on veut sortir du glyphosate, moi je pense qu'il faut en sortir du glyphosate, on peut se dire, on en sort. Il reste effectivement la problématique agriculture de conservation, où pour le moment, on n'a pas d'alternative.
C'est ça le résiduel, en fait, dont j'entends parler
essentiellement,
aussi, c'est ça?
Essentiellement. Il y a 50% du glyphosate qui est utilisé sur vignes. Ça, on peut s'en passer tout de suite. Ça, c'est important. Et après, on peut peut-être se dire, rentrons dans un système de dérogation temporaire pour accompagner, là où il y a pour le moment des impasses techniques, et il y en a des impasses techniques, pour que les gens ne se retrouvent pas le bec dans l'eau à dire, moi il faut tout que je change encore une fois, quoi.
Vous vous rendez compte, c'est dramatique ce qui se passe. J'écoute toutes les radios, toutes les télés là, depuis le début du Salon de l'Agriculture et puis depuis qu'on parle du glyphosate. Et puis les députés et les sénateurs, on consacre un temps énorme à savoir si c'est 2, 3, 4, 5 ans. Si on mettait la même énergie sur la table pour accompagner les agriculteurs, pour trouver des solutions, je peux vous garantir qu'on serait déjà sorti.
Je voudrais qu'on écoute Charlotte, parce que ça fait 30 minutes qu'elle attend. Charlotte Pauvrette au standard, bonsoir.
Bonsoir.
Désolée de vous avoir fait patienter autant, Charlotte, allez-y.
Pas de problème. Moi, je suis éleveuse en Ille-et-Vilaine de vaches laitières. Et du coup, je voulais dire que... Enfin, moi, je voulais parler de la souffrance animale, en fait. Moi, j'élève mes vaches avec beaucoup de passion et de calme. Je les vois naître, je les vois évoluer. Je les considère comme mes collègues de travail, en fait, quelque part. Et je connais leurs prénoms et en fait, ce qui me rend malheureuse, c'est que j'ai toujours une boule au ventre, en fait, quand mes vaches partent, parce que les abattoirs sont de plus en plus gros et les vaches font beaucoup, de plus en plus de kilomètres aussi pour être abattues. Et je voudrais savoir s'il y a des solutions pour reprendre la main, en fait, sur l'abattage, en fait, de nos animaux, pour qu'on puisse aussi leur donner une mort digne de ce nom.
Merci beaucoup pour votre remarque et pour votre question, Laurent Pinatel. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Charlotte ?
Eh ben effectivement, enfin moi j'ai le même problème. C'est pas le problème. J'ai le même problème. Je finis ma phrase. J'ai le même problème sur ma ferme avec ma sœur. C'est ce que j'allais dire. Et en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est ma sœur qui gère le troupeau laitier, qui gère le troupeau des animaux. Et effectivement, elle a cette boule au ventre de la même façon quand les vaches montent dans le camion, parce qu'elle se dit mais nous on a passé beaucoup de soins à ce qu'a dit Charlotte. Et en fait, on sait pas ce qui va se passer derrière, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les abattoirs, ils ont des cadences infernales. Être tueur en abattoir, c'est quelque chose d'important, parce qu'on a délégué à ces gens-là le fait d'abattre les animaux pour qu'on puisse les manger, parce qu'on peut pas les manger vivants. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est des gens qu'on ne prend pas le temps de former assez, qu'on ne prend pas le temps d'avoir des multipostes, de changer de place. Il y a énormément de problèmes dans les abattoirs, de troubles musculo-squelettiques. Donc il faut vraiment reprendre la question des abattoirs, et la question du transport, elle va avec. Il faut remettre beaucoup plus d'abattoirs en France. Il y a dans la loi sur les états généraux, la loi SGA, quelque chose qui permet l'expérimentation de l'abattage à la ferme, de l'abattage mobile. Il y a tout un tas de dispositions qui vont permettre de limiter le temps de trajet des animaux et d'avoir des structures à taille humaine pour abattre de façon correcte. Ce qui a été dit en préambule tout à l'heure pour lancer l'émission sur effectivement les conditions horribles de façon un peu provocatrice de mort des animaux. Oui, après la mort, c'est jamais joli. Mais effectivement, il faut qu'on améliore ça. Il y a ces expérimentations qui sont possibles. Il faut juste faire sauter le verrou des grands groupes qui sont en train de bloquer les états généraux, et notamment la revalorisation de la viande bovine. Je pense à Bigard, pour pas le citer. Il faut faire sauter le verrou de ces grands groupes qui empêchent ces expérimentations d'abattage à la ferme et d'abattage mobile. Là, il y a un vrai levier de transition agricole et de reconquête du revenu des paysans et des paysannes.
C'est mal vendel.
Oui, il y a des choses qui sont en train de s'organiser en département, en région, justement par rapport à ce sujet-là et la boule au ventre des éleveurs. C'est quoi, juste sur le sujet de l'agribashing, ça montre bien que l'éleveur, il est quand même affecté. Il aime son troupeau, il aime ses vaches, elles ont tout un petit nom. Voilà. Et donc, c'est vrai que plusieurs choses sont en cours d'étude, entre autres l'abattoir mobile. Être aussi capable de pouvoir mettre quelque chose de mobile qui rassurait, éviter que ça soit les bêtes qui se déplacent plutôt l'abattoir qui vient. Alors c'est assez compliqué parce qu'au niveau de l'hygiène et tout, ça se fait pas en deux minutes. Il y a aussi le fait de pouvoir avoir des abattoirs régionaux ou départementaux avec du transport collectif sur un chargement plus faible pour éviter de les stresser. Voilà, c'est ça. Donc on est en train de travailler là-dessus, on a des pistes, j'espère qu'on aura des très bons résultats d'ici peu pour pouvoir résoudre ces problèmes. Et indirectement, c'est aussi reprendre sa commercialisation en main. Si demain on organise des coopératives, des groupes au travers des chambres d'agriculture pour pouvoir mener à bien ces projets-là, et ben c'est indirectement reprendre en main sa commercialisation et donc avoir une vraie retour de la valeur du produit dans la de ferme.
Juste si je peux rajouter là-dessus pour compléter si je peux me permettre les propos de Samuel, moi je pense que là on est dans le cœur du problème. Comment on arrive à se réapproprier collectivement l'avenir de notre agriculture ? Il y a les politiques publiques, on en a parlé, mais il y a aussi ce volet où aujourd'hui on ne peut pas demander à un éleveur, à un producteur de céréales de devenir aussi transformateur et commerçant. Moi j'ai un exemple à côté de chez moi, mon beau-frère qui est pas forcément c'est un super éleveur, il a pas forcément envie de transformer, de commercialiser. Comment on se donne les moyens ? Comment l'État fait tomber de l'argent, les régions font tomber de l'argent pour organiser, structurer collectivement, via peut-être les chambres d'agriculture qui sont les chambres consulaires, nous il nous semble que c'est notre rôle, des plateformes collectives. Moi je suis de Saint-Etienne, sur Saint-Etienne il y a une expérience qui est menée qui s'appelle la ferme au quartier où les producteurs livrent cette plateforme et la plateforme commercialise. Cette plateforme elle commence à essaimer un peu, aujourd'hui elle va monter sa première légumerie, transformation de légumes, et je pense que c'est le genre de modèle qu'il faut faire essaimer pour recréer du lien et aussi pas avoir non plus 3-4 métiers appropriés.
Il y a un thème qu'on n'a pas abordé, c'est Jean-Thomas qui va le faire pour nous. Bonsoir Jean-Thomas.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Oui, en fait, je voulais parler, effectivement, c'est un thème qui n'a pas été beaucoup abordé. La vente des produits bio et de qualité, malheureusement, souffre, je pense, de la grande distribution. En fait, quand on prend un kilo de poireaux bio, ou qu'on prenne un kilo de poireaux normal, le prix gardé par la grande surface est plus grand pour les produits bio parce qu'ils sont plus chers de base, à cause du système de... Excusez-moi, je reprends mon souffle, en fait, vous m'avez surpris.
Non, je vous en prie, je suis désolé. À cause des marges, vous êtes en train de me parler des marges, en fait.
Exactement, en fait. On a un système de taux de marge dans la distribution, et je trouve que c'est pas très adapté, en fait, à tout ce qui est agriculture de qualité. Et les grandes surfaces, en fait, se disent qu'on peut appliquer un taux de marge équivalent parce qu'il y a plus grande casse peut-être avec les produits bio. Mais je suis pas tout à fait d'accord et j'aimerais avoir votre avis dessus, même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'experts en fait.
Merci beaucoup pour reprenez votre souffle, Jean-Thomas, et merci beaucoup. Rapidement, pardon, parce qu'il nous reste assez peu de temps, la grande surface, Laurent Pinatel, est-ce que le fameux relever les seuils de vente notamment, etc., les seuils de vente à perte, est-ce que tout ça a permis de vous aider, vous
Nous, pas du tout. On l'avait dit, la Confédération Paysanne, du moment qu'il n'y avait pas de notion de contrainte, d'obligation de reverser la marge supplémentaire, ça ne pouvait pas marcher. On voit que les négociations commerciales qui se terminent globalement ne se sont pas très bien passées, hormis dans le lait de vache, mais parce que la situation de marché elle est particulière. Sur le lait bio, par exemple, sur tous les produits bio, ça ne s'est pas super bien passé. Moi, j'ai rencontré, je suis de Saint-Etienne, il y a Casino à Saint-Etienne, on fait des moments, des bouts de train ensemble avec le directeur des achats de Casino. Effectivement, ça s'est mal passé avec les produits bio, parce que c'est un business plus à faire, et on va marger dessus, et on va avoir une tendance à industrialiser l'agriculture biologique pour qu'elle soit moins chère.
Oui, et puis les produits bio sont concernés, comme tous les produits, de la concurrence étrangère. Et aujourd'hui, on trouve des tomates bio bien moins chères espagnoles plutôt que françaises. Quoi. Quand je suis désolé, hein, à un moment donné, quand on a le rayon bio pas cher, c'est pas possible. À un moment donné, si c'est bio, c'est de la qualité. C'est comme des labels. À un moment donné, ça se paye. Donc le bio, c'est pas cher. Voilà. Ou s'il n'est pas cher, c'est qu'il n'est pas français.
Je crois que les jeunes agriculteurs avaient trouvé dans des rayons du lait bio moins cher que les conventionnels.
Ouais, donc c'est pas possible.
C'est impossible.
Ça veut dire qu'il n'est pas bio d'ailleurs, ou ça veut dire que personne, que tout le monde a perdu de l'argent là-dessus?
Alors, je suis pas de la police. Donc à un moment donné, je peux pas m'exprimer là-dessus. Il est certainement bio, mais il a certainement été pas fait dans les mêmes conditions qu'en France.
Allez, merci beaucoup. Merci à tous et merci pour vos nombreuses questions. Comme d'habitude, portez-vous bien.